supplément magazine de la grande matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker qui reviendra sur les accords de l'entre-deux-tours des municipales, avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, un réalisateur nigérian, avec nos débatteurs du jour tout à l'heure pour discuter de cette ahurissante campagne d'affichage titrée « Va chier, message de prévention contre le cancer colorectal », ça fait rire mes invités, mais vous, ça vous donne envie d'aller vous faire dépister, une affiche qui vous dit « Va chier », ça vous fait rire, ça vous insupporte, on en discute à 9h30. Tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
On a dit d'eux qu'ils faisaient du rap bien élevé, du rap pour les bourgeois, eux qui ont rappé avec des furieux, eux qui rappent à l'ancienne, eux qui sont devenus les gardiens du temple, eux qui viennent de sortir leur 5e album, qui mettent à genoux toutes les critiques. L'album s'appelle Karma et il est littéralement porté au nu. Eux, c'est Big Flo et Oli, les frères Ordonez. Ils ont commencé tout petits, ils ont maintenant 30 ans, 3 milliards d'écoutes en stream, des disques de platine et déjà plusieurs vies. Chassons les poncifs. Non, ce n'est pas l'album de la maturité, comme l'écrit la presse. C'est l'album de la liberté chèrement gagnée. C'est l'album de la fraternité qui a résisté à toutes les épreuves. C'est l'album de la remontada face à ceux qui n'y croyaient pas. Portrait numéro 108.
Ça, c'est de l'intro.
Merci, ça fait plaisir. Flo et Oli en direct sur France Inter. Florent Ordonez.
Ouais, c'est quasi un couplet que tu nous as lâché là.
Quasi.
Ouais.
Non, on pourrait peut-être le mettre en son.
Ouais, on va te produire, je pense.
Voilà. Et Olivio Ordonez. Voilà. Dit Big Flo et Oli, vous le savez par cœur. L'album s'appelle Karma. 5 dates exceptionnelles au Zénith de Toulouse. 17, 18, 19 avril. 14 et 15 mai, 2 concerts à l'Accor Arena Paris, 19 et 20 octobre 2026. C'est un bon livre sur vos punchlines et bientôt sur les miennes aussi.
C'est grave, hein. Il y en a peut-être plus. Hein.
C'est ça. Je vous propose une interview ligne à ligne. Je pense que dans Karma, il y a des textes de très très haut niveau, absolument magnifiques.
Merci beaucoup.
Je vous propose qu'on les reprenne, d'accord? Et je prends vos mots, vous me racontez votre histoire. On a vu que Toulouse à 4h30 de Paris. Ça, c'est family business.
Exact.
Ouais. Que Toulouse ?
Ouais, on a grandi à Toulouse, on est resté à Toulouse pendant longtemps. Et c'est vrai que Toulouse a ce truc un peu particulier où c'est très chiant d'aller à Paris, quoi. C'est soit il faut prendre l'avion et c'est un peu cher et c'est relou, soit il faut prendre le train et c'est 5 heures. Vraiment, je crois que le record qu'ils ont fait, ils ont battu un record quand c'était 4h42, ce qui reste quand même très chiant. Donc pour nous, en tant que Toulousains, aller à Paris, c'était vraiment quelque chose.
On a grandi parmi les Latinos, les Gitans, les Rabbins. Un de nos potes avait trouvé un Glock sur le bord du canal.
Ouais, on a grandi dans un quartier un peu de film français, un peu bizarre, où tout se mélangeait, les origines, les gens, le quartier de Claude Nougaro et des Zebda, les minimes. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans ce quartier, mais il y avait une effervescence, un truc où tout le monde se croisait, et c'est de ça dont on parle dans Family
et
Business.
Et qu'est-ce qui se passait à la maison ? Qu'est-ce qui se passait à la maison ? Notre daron cachait un ami en cavale.
Notre père avait toujours des amis un peu étranges.
Latino aussi, beaucoup.
Ça passait à la maison, il y avait des allers-retours. Voilà.
Il a fui la dictature.
Non. Non, il est juste parti pour
tenter sa chance. Ouais.
Pour le kiff.
Ouais.
Ah bon.
Ouais.
Ah c'est vrai, moi je pensais qu'il était parti avant, bien avant.
Non, c'est moins dramatique que ça. Il voulait juste faire du cirque. Il voulait juste être un artiste. Et voilà, il y a des gens qui passent à la maison. Pas toujours très clair cette histoire. On l'a appris plus tard, quoi.
On s'en est rendu compte en devenant adulte, quoi. Des fois, tu te rends pas compte de certaines réalités. Et en grandissant, en reparlant avec lui, on éclaire des zones sombres
c'est
de notre
ça.
Histoire
moi,
de famille.
C'est ça. Moi, je le pensais, réfugié politique, qui cachait des réfugiés politiques en cavale et tout ça. Non.
Malheureusement, non.
C'est moins que là, c'est un latino qui voulait réussir sa vie en Europe.
Ouais. Après, le latino qui a recommencé tout en bas, hein, en Europe.
Ah, hein. Oui, il s'est retrouvé sans papier. Il faisait la manche en Autriche, dans des cirques en Italie. Il a une sacrée histoire.
Vous avez parlé espagnol avec lui ?
Ah oui, Ouais. Ouais, on est bilingue espagnol, langue deuxième langue maternelle, quoi.
Mais pas assez. Les enfants qui ont des parents un peu blédards, comme on dit nous, ils connaissent ça. Nous, notre père, il a beaucoup voulu pratiquer son français. Donc parfois, je lui reprochais il me disait, mais moi, j'avais à apprendre à parler les français. et moi, je disais, mais je veux apprendre l'espagnol.
De toute façon, l'accent de votre père, il est un peu partout dans l'album.
C'est vrai.
Et vous, ce que vous avez parlé foot avec lui, la photo de Maradona qui se lève la Copa. Alors, Flo, maillot de River, Oli, maillot de la Boca.
Ouais, exactement.
Donc, chacun son club de foot argentin.
C'est aussi pour souligner la différence un peu des deux frères, quoi.
C'est-à-dire
chacun de ces clubs a une identité. Boca, c'est le peuple très populaire, très quartier populaire, très, on va dire, convivial. Et River, on les surnomme les millionnaires. C'est un peu plus hautain,
plus froid. Voilà. Qui est River, qui est Boca?
Devine.
Bah, moi, Big Flo, je suis évidemment River, hein, les millionnaires, la classe, etc.
Ouais. Et lui, d'ailleurs, dans l'album, vous dites plusieurs fois que Oli vous l'a reproché de parler de pognon, de parler d'argent, de ramener ça dans les textes et dans les sons.
Exact.
Ouais, ça a été souvent des grandes discussions de frères et des discordes aussi.
Mais on assume nos différences maintenant. C'est ça la différence. Ouais, avant, on l'assumait moins. Aujourd'hui, on l'assume et ça ne nous empêche pas de nous aimer en tant que frères.
Nous on pensait qu'à ça, que la famille prospère. Papa chante la salsa, les rappeurs sur les posters. Maman et son cancer, contrôler sa colère. Y'a quoi après la misère, l'été après l'hiver. Petite ville de province, les sens y sont trop minces. On essaye, on s'échappe, on regarde trop loin. Faut pas toucher les deux frères, jamais ils se laissent faire. Restaurant chinois, pour fêter les anniversaires. Réussir, impossible. La musique, impossible. Pour nous, impossible de se dire que c'était impossible. Photo de Maradona qui soulève la Copa. Flo maillot de River, Oli maillot de Boca. Les profs ont très vite compris qu'on sera pas des...
Remontada, vous le dites, je me suis promis de ne pas avoir la même vie que ma mère, sur la vie de ma mère, évidemment.
Je suis assez fier de cette phrase.
Ouais, mais il y en a plein, des punchlines. Hein. Le vélo volé, voilà, ça c'est très bien, voilà. Ma mère s'est faite insulter de sale arabe par son patron, 20 ans de taf dans un carton, elle pleurait dans le salon.
Ouais, c'est des images de notre enfance qui reviennent en flash avec parfois une réalité difficile sur ce qu'a pu vivre notre mère, qui a eu beaucoup de galères avec son boulot, qui s'est battue pour éduquer ses enfants,
algérienne
d'origine, la femme aussi d'un artiste qui galérait, un intermittent du spectacle. Donc elle a porté un peu à bout de bras cette histoire de famille avec des moments un peu plus particuliers, un peu plus difficiles.
Et vous dites, on chante Booba avec la daronne? Vraiment?
Ah ouais.
Ouais.
Ouais, c'était le...
J'ai dit ça à mon fils, il est resté genre, eh ben voilà, la différence entre eux et moi.
Mais la suite, c'est...
J'ai jamais chanté Booba avec ma daronne.
La suite, c'est qu'on écrit, pour pas avoir de problème, elle fait semblant de pas comprendre les paroles, pour pas nous tirer les oreilles, on va dire, à l'époque. Ouais. On a une mère assez ouverte sur ça. Ouais.
La suite aussi, c'est que vous avez vu votre mère frappée par le cancer, et que à un moment, dans un autre texte, dans 44D, vous dites, ma mère a plus de cheveux, je la surnomme Booba. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très joli.
C'est vrai qu'il y a deux références à ça, mais c'est vrai que c'est un artiste qui nous a pas mal liés avec notre mère. C'était bizarrement.
Oui,
c'est des
bizarrement,
moments qu'on a partagés.
Très, très bizarrement.
Qu'on a partagés avec elle et qui sont inoubliables, vraiment.
Ouais.
La New Gen attend le moment où on m'enverra à la casse. Chaîne en diamant, putain, je suis devenu un rappeur de base. Je suis en feat avec Kalash, en feat avec Vianney. Ils essaient mais n'arrivent jamais à nous rentrer dans une case. Mon pote me dit qu'il tient à moi que quand il est sous tasse. La mort, la maladie, avec le temps tout passe. Bientôt je prends un aller simple pour la passe. En Bolivie je me casse, mais je suis pas sûr de passer la douane. On se croisera pas pendant le vol. Flying Blue Platinum, je suis en 2A, en business class. Tout le monde a le droit de rêver. Au premier vol, j'étais en 44D. 44D au fond de l'avion qui gigote. 44E, il y avait Oli qui voulait déjà la place du pilote. Les meilleurs rappeurs français, sinon qui d'autre? Je le pense.
Alors comme
vraiment,
ça, Oli en 44E, il voulait déjà la place du pilote.
Exact. Ouais, c'est une image pour dire que Oli, il a toujours été le plus motivé des deux, le feu, on va dire, le feu de ce duo. Et il est intenable depuis petit, quoi. Tu vois, moi, je suis KO là, on fait la matinale, je suis dans les chaussettes. Et lui, il est très bien, tout va bien, il est toujours chaud de vivre, on va dire.
Le rap se consume, les gens le consomment, les stars en costume que l'argent console.
J'ai compris que je ne suis pas un cas isolé, je suis l'oiseau à qui on a fait croire qu'il ne savait pas voler.
Ouais,
c'est un texte super important.
C'est un texte très 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 bien écrit surtout.
Qui nous est sorti un peu comme ça, d'une traite, d'un seul jet, et on aborde plein de choses. Notre rapport à l'industrie aussi, essayer de sortir un peu parfois de ces griffes, de ces formats un peu attendus. Notre recul sur le rap français, sur la musique en général. Donc plein d'images abordées dans 44D.
On fait partie de ces dinosaures qui sortent des albums tous les 3-4 ans, quoi. ce qui se fait plus trop aujourd'hui. On achète cette chance d'avoir le temps de vraiment travailler nos projets, quoi.
Dinosaure de 30 et 33 ans, donc. Je veux pas le destin d'Oasis, perdre mon frère serait mon plus gros risque. Ça, c'est dans Focus.
Ouais, c'est dans Focus et c'est une réalité. Il y a eu des moments assez difficiles entre frères qu'on a pris le temps de régler, des nœuds qui étaient bien solides.
Faut raconter Oasis.
Ouais,
Oasis, ben... groupe de pop mondialement célèbre, et puis deux frères qui se déchirent, mais sous les yeux des fans.
Qui se déchirent en France d'ailleurs, c'était au festival à Paris, dont j'ai oublié le nom.
C'était pas les Déchirus ?
Non, c'était un festival à Paris. Donc ouais, c'est bien sûr des mauvais exemples qu'on peut voir de frères, et ça fait peur, surtout que au-delà de notre relation grand frère-petit frère, le succès s'ajoute, l'argent, la pression... le regard des autres, donc faut bien gérer la relation, et pour ça on l'a assumé, on est allé voir une psy à deux, on a fait comme une thérapie de couple, comme une thérapie de couple entre frères pour savoir séparer le pro et le perso, comprendre qu'est-ce qui pouvait toucher l'un et l'autre, et on a beaucoup discuté.
C'était très chiant à faire ça d'ailleurs, mais c'était salutaire. Ouais, franchement ouais, c'est juste sur le moment. Tu te mets sur un canapé avec ton frère à parler
Flo,
avec...
Flo me tournait le dos...
C'est marrant que vous parliez d'une thérapie de couple, parce qu'en réalité, ça s'appelle une thérapie familiale, vous n'êtes pas un couple,
oui.
Êtes des
frères,
c'est
pour faire rire,
une famille.
C'est pour faire rire, on est un couple dans le travail en tout cas.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même un duo de travail, c'est quand même très spécial. Nous, on en a parlé pas mal avec Eric et Ramzy, avec McFly et Carlito.
Qui ne sont pas frères, hein,
parce que tout le monde va s'imaginer. Non, ils ne sont pas frères, mais ils travaillent ensemble. Joey Starr, Cool Chain, on a beaucoup demandé des conseils, parce que c'est un vrai équilibre.
Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Mexico.
À Mexico, on allait.
Je cite Karma. Ouais. Non, vous voulez qu'on écoute Karma ?
Vas-y,
très
je te suis. Mexico
avec Oli dans les allées du marché noir. Superstitieux, je ramène un porte-bonheur chez moi. On rencontre un petit gars qui se détache de la foule. Quelques jours plus tard, il sera tué par la foudre. Oli m'a appelé en larmes, répétant que tu n'existais pas. Le soir même, on a chanté dans un festival. Et sur scène, je me suis absenté. J'aurais voulu l'entendre chanter. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. J'ai contenu ma haine. Faut que tu me protèges de moi-même.
J'ai le diable sur ma gauche, il me parle, il s'accroche. J'ai le public derrière moi, la route est étroite. J'ai le diable sur ma gauche, mais j'ai Oli sur ma droite. Big Flo.
Ouais, c'est un petit hommage que j'ai rendu à Oli. Ouais, Oli, c'est
à mon petit frère.
Exactement. Il me soutient. Moi, j'ai plutôt tendance à être instable émotionnellement, on va dire. Et Oli, qui a la chance d'être plus stable, il me soutient et. Il me tire vers le haut, on va dire.
Ouais.
Là, tu nous fais dire des trucs un peu trop
non.
intimes.
Ah bah non, en fait, parce que c'était le deal de ce portrait, c'est
mais
que
oui,
je reprends
oui, c'est
vos
génial.
Mots.
Oui,
et je prends vos mots dans Karma, qui sont tous magnifiquement
merci
écrits.
Beaucoup.
Donc, dans Focus, j'en ai plus rien à foutre. Combien de fois dans ma vie, j'étais au fond du trou, et des peurs et des peines, toujours des putains de doutes. Dans Osaka Hotel, j'écris ce texte dans la suite W d'Osaka Hotel sous Prézapam, contrôle émotionnel. Ça aurait pu être l'alcool ou le shit. Est-ce qu'au fond, c'est pas pareil. Ça aussi, ça traverse tout l'album Big Flo.
Ouais, c'est vrai. J'ai eu pas mal de... Pendant la création de cet album, j'ai eu des petits problèmes de santé mentale, on va dire. Je fais pas mal d'anxiété, etc. C'est un peu propre aussi à notre génération, j'ai l'impression. Et j'en parle pour aussi dire que... Pour aider ceux qui peuvent traverser ça, et pour leur dire que j'ai beau être Big Flo, etc., on passe par les mêmes galères.
Que c'est vraiment propre à votre génération ? Moi, je crois pas.
Peut-être
que votre génération va trouver les mots.
Peut-être qu'on peut-être le dit.
Que les artistes de la génération d'avant.
Oui, la note l'assume plus, ouais. La note l'assume plus.
Et notamment les mecs.
Et c'est des discussions qu'on a, notamment dans le rap. Ça se fait de plus en plus. Hier, il y a un artiste qui a fait un bon buzz dans le milieu rap qui s'appelle Kershak, qui a fait plusieurs stories pour parler de ça et pour dire. On peut être issu de l'immigration, on peut être issu d'un milieu plus dur, du rap, etc. Et avoir des moments de down et les assumer. La parole se libère, ouais.
Avant, peut-être que les rockstars, elles cachaient ça sous la coque et sous le whisky, quoi.
Ouais, c'est
nous,
ça.
Comme on prend ni l'un ni l'autre, il faut bien qu'on se débrouille avec autre chose, quoi.
Elle est pour qui, tu me manques, cette chanson ?
Tu me manques, elle est pour une histoire qui a vraiment compté dans ma vie. C'est pour une dame qui s'appelait Pierrette.
C'est Oli qui parle.
Ouais, c'est Oli, pardon. Qui est devenue ma grand-mère d'adoption. Ça a été un coup de cœur amical entre deux générations qui n'avaient rien à voir ensemble.
C'était quand vous étiez petit à Toulouse ?
Ouais, dans mon quartier des Minimes, encore, j'y reviens. Et en fait, c'était une dame, en plus, symboliquement, qui n'avait jamais réussi à avoir d'enfant, qui avait cette frustration-là. Donc, on s'est vraiment retrouvés à un moment où c'était un peu le chaos familial. J'allais m'isoler dans sa maison très calme et très douce. Et voilà, il y a eu plein d'histoires entre elle et moi. Et puis malheureusement, un jour, elle nous a quittés de manière assez brutale. Et ça a été un vrai changement dans ma tête et dans ma vie, comme une étincelle qui s'est allumée de se dire, voilà, on peut partir du jour au lendemain. Donc à partir d'aujourd'hui, pour elle, mais surtout pour moi, je vais vivre différemment.
Ouais. Et on va profiter de ce... qu'on aime.
À l'époque,
la remontada
du son et des journalistes hype m'avaient traité, c'était hard. J'avais 16 piges et des mecs de 30 crash. Et sur ma passion, juge à mon personnage trop fade. Quand sur les paracas H qui m'invite à partager le café et trinquer avec ma tasse, j'ai gardé le ticket de l'addition comme une relique, une trace. La honte, faut pas qu'ils sachent. T'imagines pas la détermination et le taf pour pouvoir un jour dépasser tous ces caps. Moi, je grattais des pages, passion chronophage sur bateau gonflable à l'abordage. Miracle d'avoir évité le naufrage. Les artistes qui nous basent, des nouvelles qui nous blasent. Le moral qui se casse, on avance de casse.
Au lit dans la remontada, il y a des souvenirs assez douloureux, ouais. Parce que vous avez démarré hyper jeune tous les deux, mais vous particulièrement.
Ouais, en fait, je m'en suis rendu compte en grandissant.
Ouais, à quel point ça avait été dur.
Et j'ai même, là c'est peut-être égocentrisme, mais j'ai eu de l'empathie pour l'enfant que j'étais, en étant ce nouveau adulte.
Ouais.
Parce
non,
que j'ai réalisé par quoi j'ai été frappé parfois, tous ces moments que j'ai traversés de critiques, d'insultes. Violente sur les physiques, ça allait très loin, même parfois par des chroniqueurs, des journalistes. Et en fait, j'étais qu'un gamin de Toulouse qui rêvait juste de faire de la musique. Mm. Donc, je me suis un peu vengé dans ce morceau-là, Remontada, et je retrace ce parcours.
Fuck Libération, fuck le Parisien, fuck le Figaro.
Ouais, on règle un peu nos comptes dans cet album aussi.
Ouais, ouais.
C'est le karma, quoi. On grandit aussi, on assume un peu plus. De dire ce qu'on pense, quoi.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que Libération et Le Parisien vous sont quand même pas... Enfin, sont pas rancuniers, puisque vous ne l'êtes pas non plus, sont pas rancuniers parce qu'ils ont fait des critiques absolument dithyrambiques de ouais. Karma, de l'album. Je vous dis ça quand vous arrivez, vous me dites... C'est bizarre, ça doit cacher quelque chose, c'est
on
pas
a, on
normal.
A pas l'habitude, on n'a pas l'habitude.
Mais c'est vrai que c'est un album qui... convainc pas mal de gens qui étaient peut-être soit sceptiques sur Big Flo Oli, soit connaissaient de loin. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les tubes et qui nous connaissent en vidéo et qui nous trouvent un peu sympathiques, mais qui n'ont jamais pris le temps d'écouter l'album. Et là, sur celui-là, ça change. On a beaucoup de gens qui nous disent « je ne connaissais pas en vrai Big Flo Oli et j'ai pris Karma en pleine gueule ». Donc ça nous fait...
En pleine gueule.
Ouais,
en pleine gueule.
Karma dans ta gueule, je dis souvent sur les réseaux.
Karma dans ta gueule, c'est ça. C'était un album de paix intérieure.
Exact, ouais, on est pour la paix.
Hein. On a encore des séances de psy à faire,
ouais,
je crois.
Ouais, ouais,
hein, on va y aller peut-être après.
Non, mais c'est bien les séances de psy. Et je pense que c'est bien d'être, comment dire, gentil et empathique avec l'enfant qu'on a pris plein à la gueule.
Il faut.
Je pense pas que ce soit de l'égocentrisme.
Bon, mais ça va.
Bon, bah ça va. Donc, Big Flo et Oli sont sur France Inter. Vous allez nous faire un live. Ça, c'est une vraie chance.
Ouais.
C'est le retour du texte.
Exact.
J'ai pas arrêté de le dire depuis 20 minutes. C'est un texte magnifiquement écrit. Enfin, ce sont des textes magnifiquement écrits, cet album.
Merci.
Karma. Et il y a un titre qui s'appelle Le retour du texte. On y va ?
On y va.
L'album est à vous ?
Allez.
L'album est à vous, le studio est à vous, le micro est à vous.
9h25, on y va, on va freestyler.
9h25.
Pourquoi tu précises l'horaire juste avant?
Parce que c'est bien, c'est comme ça qu'on fait
parce
en radio.
Que, parce que c'est rare, c'est rare.
C'est comme ça qu'on fait en radio. La raison. Yeah. Big Flo et Oli sur France Inter.
Combien de carrières j'ai enterrées? Plus facile est la montée, plus rapide est la descente. Des gants en feu dont il reste que descendre. Des mecs que j'enviais qui ont disparu en décembre. Combien de fois j'ai parlé de fric dans mes textes? Sûrement trop, Oli me l'a souvent reproché. Combien de cases à cocher, combien de cases sur le côté, combien de fois sous-côté. Ok. Combien de fois j'ai pas vu ma mère, à la place, rien à faire. J'étais sur mon canapé, avachi. La vie est tout ce qu'elle nous prend pour acquis. Combien de fois je m'en voudrais le jour où elle sera partie. Qui écrit pour toi? Un peu de philo. Tu fais tout ça pour de vrai? Ou en fait c'est du cynisme? Regarde ta main, elle porte pas la marque du stylo. C'est le retour du texte, tu peux plus tout miser sur le stylisme. Te faudra des mots, pas du marketing et de la mélodie. Et des lettres qui se mêlent aux rimes. Ouais. C'est le game qui se rembobine, adapte-toi ou tu vas vite redevenir un anonyme. Rap dealer, beat killer, grand rimeur, big kiffer, grand tireur, peut-être le next leader. C'est le retour de texte qui rime. Pourquoi ces fils de pute vivent pendant que c'est Naman qui meurt? Combien de fois j'ai mis du fric dans des marques de luxe qui me respectent même pas?
Ouais.
Ni moi ni notre culture, tout ça pour impressionner des gars plus pauvres que moi et enrichir leur structure. Yeah. Heureusement qu'on change, mec. Ouais. Le rap avant la tempête.
Le rap avant la tempête.
Je peux pas décevoir mes ancêtres. Yeah. Oli, à toi, vas-y.
Flo, ouais. Dis-moi ce qu'on va transmettre.
Yeah.
Je veux revenir à l'essentiel.
Revenir à l'essentiel.
Juste revenir à l'essentiel.
Ouais. Oh.
Sonia, moi, je me suis rasé le crâne, tu vois j'ai passé le cap. Marre de voir des plans sur ma calvasse dans Planète Rap. J'ai vu des millionnaires pauvres, certaines choses s'achètent app. Quand y'a des larmes sur le caviar, regrette le sachet de pâte. J'habite collé un bar, j'entends la basse jusqu'à 4 du mat. Et quand je vois du noir, j'improvise jusqu'à la place du cap. C'est pas que des mots, c'est plus que ça, hey, hey. Et mon cœur crame les kilowatts. Le succès m'a rendu légitime. Sans la musique, je serais comme psychopathe. J'ai bravé le serment d'Hippocrate. Je joue avec le buzz et je freestyle sur la rythmique des flashs, des photographes. Mon banquier fait signer un papier, mais le garde comme autographe. Mon père chante et Buena Vista Social dans son monospace. Gracias a la vida, je veux la terre, je m'en tape de l'espace. Shampoo, huile d'olive, aller-retour, frontière de l'Espagne. Big Flo à la prod, être au top, c'est de famille. Il bouge la tête hip-hop, comme s'il avait gagné un Grammy. Mais si je passe au niveau 4, je deviens YouTube. La prod, je vais la mettre à quatre pattes, elle va me faire un bidou. Espagnol, français, ouais. Entre Marianne et Maria. Argentin, algérien, entre Ariba et Arissa. Hip-hop, variété, entre Balavoine et Alia. Bipolaire, entre le bénévolat et le petit kamikaze. Un télo populaire, entre Salam Elea et Nabila. Adorable Kali, entre le Big Mac et un pot de caviar. Détendu, stressé, entre la finale et match amical. Le célibat et le mariage, entre le soldat et l'amiral. Entre l'ouvert et le radical, entre le vegan et le cannibal. Entre Luther et Danidan, la province et la capitale. Karma.
Waouh! Waouh! Et ça, le plus beau, c'est de voir les yeux de Big Flo qui regarde son petit frère en train de rapper. Bravo!
Merci beaucoup. Ou l'inverse, ou l'inverse.
Ou l'inverse.
Merci
à tous les deux, Big Flo et Oli, en direct sur France Inter. L'album s'appelle Karma. Merci à tous les deux. Et bon vent, les amis. Hop, et bon vent, les amis.
Merci. Trop cool. Merci beaucoup.
Voilà, c'est le. C'est la suite donc de la grande matinale. C'est rare qu'on finisse sur un live. D'habitude, on se dit au revoir avec les invités pendant un disque. Charline Vanhoenacker.
Oui, je suis là.
Alors, à 9h45.
Bonjour la France Inter.
Bonjour.
Écoutez, en tant qu'électeur, on vote pour une liste. On se retrouve à devoir soutenir une autre liste parce qu'elles ont fusionné. Moi, quand je commande un filet de bar, j'ai pas envie de recevoir une côte de bœuf, non en plus,
d'accord.
J'ai faim.
Et Daphné Burki, sa nouvelle tête.
Et bonjour. Et à 9h50, ma nouvelle tête s'appelle Akinola Davis Jr. Un premier film et le monde entier qui le regarde. Bah, moi aussi. Donc, il faut absolument que je vous le présente.
Et bah, à tout à l'heure. Allez, 9h29, c'est l'heure du débat du jour.
Va chier.
Bah écoutez, c'est pas mal vu.
Va chier, oui.
Ça dit bien ce que ça veut dire et c'est important de faire ce dépistage. Nous-mêmes, nous le faisons, on est concernés, on le fait régulièrement. Et c'est rien du tout, faut le dire aux gens.
Ah oui, ça impacte. C'est la couleur, tout y est, quoi, le message.
C'est drôle et en même temps, c'est important. Surtout quand on arrive dans ces mêmes âges que Dubosc.
Des affiches bleues placardées dans les grandes villes, des personnalités comme Franck Dubosc, Yann Cogendy, Marine Leonardi, à côté d'une cuvette de toilette avec le slogan « Va chier ». De la provoque donc, la Ligue contre le cancer encourage au dépistage du cancer colorectal. Mais est-ce que ça marche, la provoque ? Tabac, alcool, sécurité routière, est-ce que les slogans choquent, les campagnes qui font sursauter interpellent le public ou bien au contraire, est-ce qu'elles le font se détourner ? Vous, franchement, comment vous réagissez quand on vous dit « va chier » ?
France Inter, la grande matinale. Sonia De Villers.
Voilà, et j'ai le plaisir d'en discuter avec deux débatteurs de haute volée ce matin. Sébastien Gentil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de BBDO Paris, fondateur et président du collectif du planning stratégique. Il faut juste dire ce que c'est qu'un planeur stratégique en publicité.
En quelques mots, ouais. Ça sert à essayer de comprendre le contexte dans lequel on intervient avant de prendre la parole.
Voilà. C'est ça. En gros, c'est eux qui font la stratégie des marques et c'est eux qui conçoivent les messages. Je précise que vous êtes donc venu dans ce studio avec une tasse sur laquelle il est écrit « Va chier ». Elle est originale. Oui. Face à vous, le docteur Jean-David Zetoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue, docteur en médecine, docteur en épidémiologie clinique. Jean-David Zetoun, je voudrais qu'on commence avec vous, histoire que l'on comprenne quand même de quoi on parle. En quoi consiste le dépistage du cancer colorectal ?
Alors, le dépistage dont il est question dans la publicité, c'est un prélèvement de sel qui doit être ensuite analysé dans un laboratoire.
Donc, qui est fait à la maison ?
Qui est fait par le patient à la maison, exactement. Ouais. Et donc, c'est toute cette action-là qu'il s'agit d'enclencher et qui ensuite est amené au laboratoire où il est analysé pour rechercher la présence de sang, on dit occulte, c'est-à-dire du sang non visible, qui pourrait témoigner d'une tumeur débutante. Ce test existe depuis plus de 15 ans. Il a prouvé son efficacité dans des dizaines d'études.
Où est-ce qu'on trouve le kit ?
Alors, en général, il est remis par le médecin traitant en consultation. Mm-hmm. Et donc, ensuite, donc les gens doivent faire une démarche quand même de prélèvement de sel à la maison. C'est ça, un peu le tabou qu'il faut
donc
percer.
Donc, il faut chier dans un petit pot.
Il faut faire ça où on veut. Et ensuite, il faut prendre des sels et les mettre dans la petite plaquette et ensuite amener ça au laboratoire.
C'est ça, d'accord. Donc, des personnes de 50 à 74 ans qui sont incitées à se faire dépister tous les deux ans, si j'ai bien compris.
Oui, aujourd'hui, les règles, c'est ça. Ça va probablement évoluer parce qu'il y a une croissance du cancer colorectal chez les sujets de moins de 50 ans. Donc, on va peut-être un jour passer à 45, voire 40 ans. Et après, la discrimination des personnes âgées, moi, je ne la comprends pas très bien.
C'est-à-dire ?
Pourquoi, je ne vois pas pourquoi on bloque ça à 74 ans, même scientifiquement, ça ne me paraît pas recevable. Mais aujourd'hui, ce sont les recommandations.
Très bien. Sébastien Gentil, le travail d'un publicitaire, c'est de concevoir un message percutant, on le sait, efficace. Ça passe par une mise en image. Là, c'est doublement difficile. Il y a la question des mots. Et il y a la question de la représentation. Le caca, la merde, les excréments, selon le registre de langage dans lequel on se place. Donc il y a la question aussi de l'anus, évidemment. Tout ça, c'est très difficile à dire, mais c'est aussi très difficile à montrer quand on imagine une affiche.
Absolument. C'est vrai que c'est un sujet qui cumule plusieurs niveaux de tabous, de choses dont on n'a pas envie de parler. Un peu loin, la mort, le cancer... Et puis le caca, comme vous l'avez dit. Ouais. Donc ça fait trois niveaux de tabou, c'est pas évident. C'est des choses qui restent dans l'intimité. Et en fait, cette campagne-là, elle a réussi à briser trois niveaux de difficultés. Le premier niveau, qui est toujours le nôtre quand on parle sur ces sujets, quand on veut être le plus efficace possible, c'est celui de l'indifférence. Le premier, c'est celui-là.
Ça sert d'abord à interpeller, à briser l'indifférence.
Briser l'indifférence, qui est notre premier ennemi, en fait. C'est le premier ennemi s'il ne se passe rien, si les personnes ne voient rien. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on avait un sujet, on va dire une saine colère qui était là en regardant les chiffres et les faits, puisque Mars Bleu existe depuis 2008. Ce kit est envoyé à des gens, il est facile, il est gratuit. C'est plusieurs milliers de morts par an, c'est un des cancers les plus meurtriers. Et en même temps, si c'est pris suffisamment en temps, on peut sauver des vies.
On va demander à Jean-David Zetoun justement de préciser ça, c'est-à-dire qu'on est sous-dépisté en France.
Oui, le taux de complétion du test, il est à moins de 40%.
Ouais.
Alors que c'est un test donc, qui marche très bien, qui par ailleurs est très rentable pour la société, c'est-à-dire que ça fait économiser des cancers qui coûtent très cher. Et effectivement, le cancer colorectal, c'est 46 000 cas par an en France, 17 000 morts. On pourrait diviser par 10 quasiment.
On pourrait diviser par 10 si on était mieux dépisté.
Si on faisait tout.
Ouais. Et le dépistage sert à repérer des cancers.
Donc une présence
de
sang, exactement. Et donc à aller chercher des tumeurs à un stade où elles sont curables, parfois même sans besoin d'opérer. Et donc par une coloscopie, effectivement. Après, ça doit déclencher un geste plus intrusif qu'est la coloscopie. Il n'empêche que c'est extrêmement efficace.
Alors, Sébastien...
C'est plus efficace que la mammographie, par exemple.
Plus efficace que la mammographie ?
Bien sûr. Ouais,
pourquoi ?
Bien sûr. Parce que la mammographie, on sait que ça a des limites, ça permet de dépister des cancers plus tôt, mais l'effet sur la mortalité n'est pas aussi important que dans le cancer colorectal.
Très bien, information très, très précise et cruciale, Sébastien Gentil. On en revient au choix de la provoque.
Ouais.
Donc, le terme « va chier » et montrer une cuvette de WC.
En fait, il y avait effectivement le premier niveau, l'indifférence qu'on évoquait juste avant pour rentrer en contact avec les personnes. Là, il y avait deux autres niveaux, c'est la possibilité de créer la conversation, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Le premier élément, c'est d'en parler, de réussir à en parler avec ses proches. C'est aussi pour ça qu'il y a différents niveaux là, de célébrités qui sont utilisés, parce que c'est aussi l'enjeu de la prescription. Et puis, il y avait un autre élément qui était très important, et c'est là où ces deux mots font beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire l'indifférence générée de la conversation. Et puis, le troisième niveau, c'est d'indiquer la modalité. C'est vrai que le deuxième niveau est celui possiblement d'une coloscopie, mais ce premier geste est extrêmement simple. En fait, il y avait un peu confusion sur la modalité. Donc, la simplicité de la première modalité, qui est juste d'aller aux toilettes et de prélever effectivement une toute petite partie de ses excréments, c'était le triple enjeu de cette campagne, en fait, et de réussir à faire ces
Et il n'y avait pas le risque, comme j'ai pu le lire, j'ai pu le voir, et j'ai pu moi aussi réagir. C'est-à-dire que je suis passée à vélo devant vos affiches en me disant « Non, mais ça ne va pas la tête. Qui me parle comme ça ? Va chier. » Je précise que je viens d'une famille où le cancer colorectal a fait des gros dégâts, donc je suis particulièrement concernée concerné et je me suis rendu compte particulièrement sous-informé aussi. Mais il n'y a pas ce risque de faire que le passant lambda soit offusqué et s'en détourne, tout simplement.
Alors, c'est possiblement effectivement un risque. Il se trouve que, en fait, le plus grand risque, c'est qu'on n'en parle pas. La chose la plus choquante, c'est les chiffres que vous évoquiez à l'instant. C'est ça qui nous semble le plus choquant. Et on se dit que de temps en temps, une saine colère, ça peut permettre de passer un message. Parce que 2008, je rappelle, et on est en 2026, et pas grand-chose n'a bougé, voire rien. Les évolutions sur le dépistage, les chiffres n'évoluent pas. Donc, c'est ça qui est choquant. Donc, le risque était bien moindre que les chances de gagner quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit dans les réactions. Certes, il y a des gens qui se disent « Est-ce qu'on a besoin de passer par cette forme de vulgarité ?» Et en même temps, la campagne, sans mauvais jeu de mots, a généré ses propres anticorps parce que ceux qui l'ont défendu ont été bien plus nombreux que ceux qui l'ont attaqué. Mmh. Et au minimum, ça a généré la conversation et une saine conversation, puisque l'enjeu, évidemment...
Jean-David Zetoun, j'imagine que c'est toute votre carrière aussi de gastro-entérologue de constater dans le secret de votre cabinet des patients qui, en réalité, ont été victimes de leurs propres tabous vis-à-vis des selles, vis-à-vis de l'anus, vis-à-vis de la matière fécale.
Alors, c'est clair. Après, nous, en médecine, en consultation, on a deux avantages par rapport à la santé publique, qui est qu'on a la confiance et on a un espace d'intimité. En général, quand vous allez voir votre médecin, surtout si vous le connaissez déjà, vous lui faites confiance. Mmh. Et par ailleurs, la consultation, c'est un espace intime dans lequel c'est quand même plus facile de parler de ça. La santé publique n'a pas ces avantages. Elle ne peut pas faire avec ça.
Vous êtes en train de me dire qu'on ne parle pas de la même manière à une personne ou à un million de personnes dans la rue.
Nous, en consultation, vu les avantages qu'on a, on arrive souvent à geler des décisions, à fixer une décision. C'est-à-dire que les patients viennent, on discute, et ils sortent, ils enclenchent une décision, que ce soit une vaccination, un examen, un médicament, etc. La santé, alors c'est très puissant, mais à un prix élevé, qui est qu'à chaque fois, il faut un médecin, un patient, et ça prend un certain temps, etc. D'accord. La santé publique, elle doit faire un passage à l'échelle, sans les avantages que sont la confiance et l'intimité. Et donc, il faut que ce soit marquant pour que ça marche. On n'a jamais vu une campagne de santé publique qui avait une efficacité avec un message plat, avec un message blanc. Si c'est de l'eau tiède, personne ne va remarquer ça.
Donc vous, ça vous a fait rire? Vous avez trouvé que c'était une bonne nouvelle? Vous qui êtes gastro-entérologue et qui, toute la journée, prêchez pour le dépistage, le vachier?
Moi, je pense que c'est bien de faire des campagnes de santé publique qui sont un peu audacieuses. Il n'y en a pas une qui a déjà marché en disant juste « allez faire votre dépistage ». Ça, c'est effectivement, ça a un impact qui est très très faible.
Ouais, en même temps, dans l'histoire de la publicité, des campagnes d'intérêt général ou de santé publique, Sébastien Gentil, on sait très bien qu'il y a des campagnes extrêmement choquantes, par exemple sur la sécurité routière, sur le tabac, où on peut voir des alvéoles pulmonaires cramées de noir, ou des gens en phase terminale de sida ou de cancer. Et on sait très bien que ça provoque aussi un déni, un rejet, une mise à distance chez le public qui se dit « oula, ça c'est pas moi ». Et qui du coup voit la campagne mais que ça ne déclenche rien derrière.
Absolument. En fait, c'est comme souvent, c'est une réponse qui satisfait personne, mais ça dépend. C'est-à-dire que dans cette situation précise-là, ce geste-là à faire, qui devait passer à l'échelle, les raisons que j'évoquais du contexte spécifique de ce cas précis nécessitaient cette démarche. Mais il y a plein d'autres sujets, on traite plein d'autres sujets à l'agence. On a lancé avec SPF à l'époque le premier mois sans tabac. Typiquement, on n'en est pas du tout au même niveau. L'enjeu,
pourquoi
c'est pas
celui-là.
Alors, par exemple, donc déjà, il y a des messages.
Donc, un mois sans tabac, ça ne sert à rien de montrer quelqu'un qui est en train de mourir dans d'atroces souffrances du cancer du poumon.
C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des messages qui le font en complémentarité.
Ouais.
Vous envisagez toujours le paquet de cigarettes, par exemple. Le prix, évidemment, qui est un élément aussi. Mais nous, notre enjeu, c'est de partir d'un constat qui est de se dire, tout simplement, en fait, c'est une grande majorité, je ne vais pas vous citer le chiffre exact pour ne pas faire de bêtises, mais une énorme majorité des fumeurs qui ont tous envie d'arrêter de fumer, qui ont envie d'arrêter de fumer.
Ouais.
Donc l'enjeu, c'est le changement de comportement pendant un mois, c'est comment on aide des gens qui ont envie d'arrêter à arrêter. Parce que la plupart des gens
donc
qui ont envie...
Donc c'est prêcher des solutions, donc c'est
encourager... beaucoup plus aller vers des solutions. Par exemple, on a fait des campagnes aussi pour la sécurité routière en se rendant compte, effectivement, comme vous le disiez, que montrer des comportements trop déviants mettait à distance. Parce que les gens se disent toujours, moi je ne prends pas ces risques-là. Ou
je rêve,
pas comme ça.
Quand on était jeune, il y avait eu une campagne de Raymond Depardon qui était ultra choquante, où on voyait une famille pulvérisée dans une voiture.
Absolument.
Et en fait, on en avait beaucoup parlé à l'époque en disant, enfin là, France fait comme les Anglo-Saxons, ose les campagnes choc, et en fait on s'était rendu compte que ça n'aidait personne à mettre sa ceinture.
En fait, alors, c'est pour ça que je dis ça dépend, j'ai pas les résultats de cette campagne, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une mise à distance par des comportements qu'on considère trop éloignés de ce qu'on fait tous les jours, et à l'inverse, on avait fait une campagne qui rappelait simplement aux gens, n'oublions jamais ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y avait une jolie chanson de Véronique Sanson dessus, sur un homme qui prenait son bain en se disant, voilà, 5 minutes gagnées, 2 minutes gagnées, ça ne vaut pas le prix de ça, quoi.
C'est ça.
Donc ça dépend des moments.
Jean-David Zetoun, ça pose aussi la question de ce que vous, les médecins, portez comme, on va dire, discours dans les médias, vous qui êtes très, très souvent interrogé par la presse et par les journalistes, c'est-à-dire quand vous parlez du cancer, est-ce qu'il faut faire peur ou est-ce qu'il faut rassurer? Est-ce qu'il faut dire, comme vous l'avez fait au début de cette interview, les chiffres sont effroyables, les courbes de croissance chez les sujets jeunes sont extrêmement alarmantes, ou est-ce qu'il faut dire... Rassurez-vous, on a de plus en plus de... Dépistez-vous, on a de plus en plus de solutions pour vous soigner.
Je pense qu'il ne faut pas dire quelque chose de différent de ce qu'on dit en consultation, c'est-à-dire un peu les deux. C'est la question impossible, hein. Est-ce qu'il faut être rassuriste ou est-ce qu'il faut être inquiétant? Je pense que ce qui est positif, c'est de dire, en tout cas pour un test, c'est plus facile pour un test, c'est de dire si vous faites ce test, vous n'avez pratiquement aucune probabilité d'avoir un cancer colorectal. Et ça, je pense que c'est plus facile.
Ça, c'est le message qui tue, ça. Ça, c'est le message qui tue. Enfin, c'est le message qui sauve.
Voilà. On n'est pas toujours dans des situations aussi confortables.
C'est ça. C'est-à-dire que si vous faites ce test, vous avez toutes les chances d'avoir le cancer dépisté. Ouais. Et si le cancer dépisté, et s'il est pris à temps, il est soigné, c'est
dans
ça que vous dites.
Dans la grande majorité des cas, pour le cancer colorectal, ça marche très bien. Et moi, c'est ce que je dis aux patients en consultation. Je dis, celui-là, vous ne l'aurez pas.
Celui-là, vous ne l'aurez pas. Ouais. Et on va finir là-dessus, non, je crois, puisque c'est le mois du dépistage. On va finir là-dessus, non? Allez vous faire dépister, allez chier. Qu'est-ce que je dois faire, reprendre les mots de la campagne de BBDO.
Absolument. Voilà.
Et je précise que c'est une campagne qui est menée par la Ligue contre le cancer. Donc, ce n'est pas une campagne gouvernementale. Peut-être que ça vous a autorisé un peu plus de liberté.
Ah, oui, sûr.
C'est sûr.
Parce que jamais Santé publique France oserait faire un truc comme ça. Je les comprends, mais maintenant, si ça marche, il faudra qu'ils se posent la question.
C'est pas les mêmes enjeux, mais absolument, c'est des acteurs différents.
Sébastien Gentil, BBDO France, auteur de la campagne qui a été multiprimée, notamment avec un prix EFI. Jean-David Zetoun, gastro-entérologue, merci d'être venu débattre de cette campagne qui nous a fait sursauter, qui avait déjà eu lieu l'année dernière. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Lola Young, Walk Over You. La chanteuse est de retour sur scène après un long break pour des raisons de santé. On attend des nouvelles dates en France. 9h46, merci à vous tous d'écouter France Inter. Charline, après deux jours de tractation entre les candidats qualifiés au second tour des municipales, des listes ont été déposées hier soir. Mmh. Alors,
vous aussi, vous sentez que les municipales, elles ont démarré?
Ah oui, ça oui.
Oh, c'est parti d'un coup à la vitesse d'un P sur une toile cirée, je dirais. Vraiment.
Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. C'est
une expression de chez moi, je vous l'offre. Ouais. Alors maintenant que les candidats savent qu'on s'intéresse à eux, ils perdent complètement les pédales. Hein. Essayez de pas trop les regarder, sinon ça va être pire, vraiment. Alors dans la pratique, ils nous inventent des alliances, des retraits, des fusions techniques. Ah, je suis sûre qu'il y a des gens, et ils vont être élus dimanche, ils vont dire « Attends, mais j'étais encore candidat ? Liliane défait les valises, on reste à Marseille !» Ils appellent ça fusion technique.
Oui.
Parce que fusion opportuniste pour assouvir son ambition personnelle en s'asseyant sur ses convictions, c'était trop long. Alors aujourd'hui, le programme de beaucoup de candidats tient en un point. Faire oublier qu'ils ont insulté publiquement celui ou celle qui peut aujourd'hui leur permettre de remporter l'élection. Non mais c'est un délire, non ? Même à gauche, des candidats se sont vomis dessus pendant des mois. Et maintenant, ils sont là. Pardon, je suis navrée. Écoutez, donnez-moi votre costume, j'allais le porter moi-même au pressing. Et l'autre qui répond, non mais ne vous donnez pas cette peine, regardez, je retourne ma veste, hop, il n'y paraît plus. Non mais moi qui pensais avoir fait le plus dur en parlant de la soirée électorale de dimanche, quelle naïveté. Celle qui a eu le nez creux, c'est Nathalie Saint-Cricq. Hein. Un petit Ciotti alias Benito, et hop, suspension.
Ça fait deux fois,
mais,
Charles.
Oui, je sais, mais là, elle est déjà en week-end, elle doit pas se farder tout ce bordel d'entre deux tours. La chance. Ça me donne une idée, tiens.
Ah non.
Éric Ciotti?
Non,
je vous le fais descriptif. C'est un Benito.
Non.
Curieux, mais qui peut bien être ce Benito? C'est Ciotti.
Non.
Prévenant. Gardez-vous de ce Benito.
Oh, mais ça suffit.
Dramatique ciel, mais c'est Benito. Nathalie, attends-moi, je te rejoins à l'épaule.
Car ça suffit.
Et oh, il y a de la censure sur France Inter.
Exactement.
On est censuré maintenant. Heureusement, il y a des trucs qui bougent pas, quels que soient les résultats. Par exemple, Olivier Faure avait donné des consignes. Et personne ne l'écoute. Glucksmann, il n'arrête pas de répéter qu'il est droit dans ses bottes. Bon, bah, le problème, c'est que même ses bottes, elles ne veulent plus de lui. Il a été très clair, il retirera tous ses candidats si un accord est conclu avec LFI. Putain, j'avais même pas vu qu'il avait des candidats, moi, tu vois. Rachida Dati n'a pas accepté la main tendue par Sarah Knafo. En mode, ça va bien, merci, j'ai déjà passé le premier tour à ramasser les poubelles. Alors, Sarah Knafo, elle s'est désistée pour faire perdre la gauche. Jusqu'à présent, elle a surtout fait perdre son parti. Ça, la reconquête par la défaite, tout un concept. Hein. À Nice, Christian Estrosi, lui, il a tout tenté pour essayer de rallier la candidate écolo. Deux jours qu'il roule à vélo électrique pour faire ses courses au Biocop. Quand ça fait des années que tu traites les verts de wokistes depuis le siège conducteur de ton SUV, c'est un petit peu léger. Et alors, même Manuel Valls a essayé de peser de tout son poids pour rallier les verts à la candidature d'Estrosi. C'est une info Le Figaro. Mmh. Ça, faut dire que quitte à renier ses valeurs, autant demander à un spécialiste. Et à Strasbourg, une socialiste a fusionné avec la droite. Mmh. C'est vraiment la version politique de la choucroute de la mer, ça, vous voyez ? Avec toute cette tambouille, la fusion la plus réussie dimanche, ce sera sans doute celle des électeurs avec leur canapé.
Charline Vanhoenacker.